Bonsoir. Bonsoir mes sœurs. Bonsoir aussi à ceux qui nous écoutent sur Radio Espérance par les moyens de communication moderne, comme on dit. Vous m'entendez? Oui. Alors nous entrons ce soir dans notre retraite, la retraite des rencontres de Paray qui commence ce soir, qui nous mènera jusqu'à dimanche midi. Et comme tout temps privilégié, c'est un temps que le Seigneur nous offre, un temps de grâce. Et d'ores et déjà, nous ouvrons nos cœurs à ce que le Seigneur veut faire, à ce qu'il veut déposer dans nos cœurs. Et comme chaque début de mois, ces rencontres, elles vont nous faire cheminer vers la consécration au Sacré-Cœur, pour ceux qui le veulent, ou bien le renouvellement de cette consécration qu'on vivra dimanche après la messe, ici, dans cette chapelle. Et pour avancer sur ce chemin, nous méditerons autour du thème de la vie religieuse, de la vie consacrée, comme un trésor pour l'Église, puis un trésor pour chacun de nous. La vie religieuse, la vie consacrée qui est présente à travers des personnes particulières, les sœurs ici autour de nous ce soir, elle nous parle, elle est un don de Dieu pour chacun d'entre nous. Et nous allons cheminer pour goûter comment ou combien celles et ceux qui ont consacré toute leur vie, une fois pour toutes, rendent visible, là je paraphrase Jean-Paul II dans l'exhortation apostolique sur la vie consacrée, comment ils rendent visible de manière exemplaire et permanente ce chemin qui nous touche aussi et sur lequel nous voulons avancer. Alors ce soir, comme premier pas, je vous propose en quelque sorte de remonter aux origines de la consécration à partir de quelques forages dans l'Ancien Testament et puis aussi à partir de Jésus qui est le consacré, qui nous consacre au Père et puis à la fin, ce sera surtout des citations, mais à partir de notre baptême qui nous a déjà tous consacrés. Et voilà, disons que l'objectif c'est d'introduire à ces quelques jours, d'introduire à cette retraite, de venir préparer nos cœurs. Je ne vais pas vous faire de la grande théologie, ce n'est pas mon but ce soir, mais simplement de poser des premiers jalons pour que notre cœur se dispose à cette consécration. Alors pour aller aux origines de la consécration, je voudrais commencer par un passage important de la Bible. Dans le livre du Deutéronome, Moïse prononce un grand discours après les 40 ans passés au désert et un grand discours pour le peuple qui va rentrer dans la terre promise. Et au chapitre 7, verset 6, il est écrit « Tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi qui l'as choisi pour être son peuple, son domaine particulier parmi tous les peuples de la terre. » Alors à partir de cette première citation qui est comme une déclaration ou une déclaration d'amour mais aussi une déclaration du Seigneur à son peuple, quelques points. D'abord, on voit être consacré, c'est appartenir au Seigneur. C'est appartenir au Seigneur et c'est être un espace pour lui au milieu de ce monde. Et puis, c'est une élection personnelle. Toi, le Seigneur t'a choisi. Toi, en tant que toi, parce que c'est toi. Et pas parce que tu es brillant, pas parce que tu es de haute naissance, pas parce que tu es sage. Il n'y a pas beaucoup de sages parmi nous, pas beaucoup de bien-nés, dit saint Paul. Je crois que c'est aux Corinthiens. Et d'ailleurs, le Seigneur, à travers la voix de Moïse, dans le livre du Deutéronome, poursuit, « S'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous. » Mais c'est bien toi que j'ai choisi. Et ça nous rappelle aussi des paroles de Jésus dans cette chapelle à Sainte Marguerite Marie. Mais dans le livre du Deutéronome, le Seigneur poursuit, c'est par amour pour vous. C'est une élection, c'est le choix de Dieu pour être à lui, pour lui appartenir et parce qu'il nous aime, parce qu'il nous signifie son amour. Et il y a au moins une conséquence pour le peuple d'Israël à ce moment-là que signifie le Seigneur, c'est de ne pas se mélanger avec les peuples alentour. Pour nous, si on le rapporte à notre réalité, on pourrait dire c'est d'avoir un cœur sans partage. Le Seigneur dit « Je veux que tu sois tout à moi parce que je veux être tout à toi ». Et dans le livre du Deutéronome, juste après cette citation que je vous relis, « Tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi qui l'as choisi pour être son peuple, son domaine particulier parmi tous les peuples de la terre. » Et ça continue. « Si le Seigneur s'est attaché à vous, c'est par amour pour vous. » Alors un deuxième forage, eh bien, le signe le plus éclatant que le Seigneur a choisi Israël comme son domaine particulier, ce sera le temple de Jérusalem. Et on peut dire que le temple sera le lieu emblématique de la consécration. Le temple lui-même est consacré, l'autel est consacré, les ustensiles sont consacrés, les prêtres bien sûr sont consacrés, les offrandes sont consacrées, c'est le lieu de la consécration. Et le temple, il est le lieu du passage entre le ciel et la terre, le lieu où Dieu se rend présent à son peuple, où Dieu descend, on pourrait dire, où Dieu est présent, et puis le lieu aussi où on offre, le lieu de l'offrande. Et ça dit, ce lieu de passage, quelque chose aussi de la consécration. Le temple est la demeure de Dieu parmi les hommes, qui manifeste aussi que Dieu prend ses délices à demeurer au milieu de nous, à demeurer en ce lieu consacré. Avoir un cœur consacré, c'est offrir cet espace, ce lieu où Dieu peut prendre ses délices. Le temple est aussi le lieu du sacrifice et de l'offrande. Passer de la terre au ciel dans ce lieu consacré se fait par l'offrande, l'offrande de la prière, l'offrande de sa vie, l'offrande de ce monde. Et être consacré, c'est entrer dans ce mouvement où nous devenons, on peut dire prêtres, parce que par le baptême nous sommes prêtres, mais d'entrer dans ce mouvement où toute la création peut retourner à Dieu par notre prière, par notre vie, par notre cœur. Et s'il y a un culte dans le temple, il y a aussi toute la loi pour le régir, parce que on ne s'approche pas de Dieu impunément. Surtout peut-être parce que l'alliance avec Dieu est comme une danse et il faut en connaître les pas pour que la danse devienne harmonieuse, agréable, pour qu'elle devienne communion. Il y a un apprivoisement, un apprentissage. Alors dans le temple, il se fait que la chorégraphie est très millimétrée. Il y a beaucoup de préceptes et beaucoup de choses à faire. Nous, dans notre cheminement, au cours de ces quelques jours, eh bien, nous prendrons le temps de scruter les conseils évangéliques que sont la pauvreté, l'obéissance, la chasteté, qui constituent les trois vœux aussi de la vie religieuse, et à l'école du Christ. Le Christ obéissant, le Christ chaste, le Christ pauvre, et nous le contemplerons pour apprendre de lui, comment être en communion avec lui, comment grandir dans la consécration à son nom. Alors je m'arrête juste, je prends quand même le temps de m'arrêter à un aspect particulier de cette loi du temple, qui est le code de pureté, qui vise à ce que nous ayons un cœur sans partage, comme je le disais tout à l'heure. On se souvient que Jésus purifiera le temple en disant que c'est la maison de son Père, que c'est une maison de prière, et en fait ça parle de notre cœur qui est cette maison de prière. Et si la consécration c'est un désir pour nous, si c'est une aspiration, eh bien c'est que nous désirons profondément ce cœur sans partage, un cœur qui n'est pas esclave comme Israël en Égypte avant de devenir consacré, un cœur qui n'est pas tiraillé, écartelé, un cœur qui ne garde pas son précaré pour s'isoler, pour n'être qu'à soi, pour échapper à la lumière. Nous désirons que notre cœur appartienne tout entier à Dieu, que notre cœur soit entièrement présent à Dieu, que Dieu le purifie. Alors, je fais un pas de plus et même un grand pas, un autre forage, un peu plus loin. Mais dans la Bible, la consécration et l'onction vont très vite aller de pair. L'onction, c'est celle qu'on va faire par exemple sur les rois, celle qu'on va faire sur les prêtres. Et l'onction va devenir signe, elle va devenir attente, elle va devenir promesse de l'Esprit Saint et de celui sur qui il reposera absolument, celui qui est loin, le Christ. Alors, je vous lis un passage du livre d'Isaïe, c'est au chapitre 61, les versets 1 à 3. Vous pourrez le relire dans votre prière si vous voulez. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. » Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu, consoler tous ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. » C'est un très beau passage et vous reconnaissez des paroles que Jésus fera siennes dans la synagogue de Nazareth quand il inaugure son ministère public et pour annoncer que le royaume est là. J'ai choisi ce texte parce qu'il lit explicitement la consécration et l'Esprit Saint. Et il me semble qu'en cela, il apporte une étape décisive. La consécration, elle est dès le départ une alliance, elle est un apprivoisement, comme on apprend à danser, avec encore quand même des distances, des prudences. Or ici, vous voyez, c'est vraiment le don de Dieu qui est premier. Le don de l'Esprit. Ce don est source, et il est source d'espérance, il est source de guérison, il est source de vie. Il fleurit et il est profondément fécond. Et je voudrais clore ces forages dans l'Ancien Testament avec une des grandes promesses messianiques, une des grandes promesses de l'Esprit Saint, dans le chapitre 36 du livre d'Ézéchiel. Au début de ce chapitre, l'ennemi prononce ses paroles contre les montagnes d'Israël. Ses hauteurs éternelles sont devenues notre patrimoine. L'ennemi dit, ces hauteurs sont devenues notre patrimoine. Mais de qui Israël est-il le patrimoine? De qui est-il le domaine particulier? De qui sommes-nous le patrimoine? De qui sommes-nous le domaine particulier? À qui notre cœur appartient-il? À Dieu, bien sûr. Et pourtant, le Seigneur va dire plusieurs fois dans ce chapitre 36, on va évidemment pas tout lire, mais juste un petit passage, mais il va dire plusieurs, ils ont profané mon saint nom. Profaner, c'est souiller ce qui est sacré. C'est le contraire de la consécration. Ils ont profané parce qu'ils ont quitté leur vraie demeure, parce qu'ils se sont liés aux idoles, ils se sont souillés en remplaçant Dieu dans leur cœur. Et voilà la promesse que Dieu va faire, cette promesse de l'onction de l'Esprit-Saint, cette promesse du don d'une consécration nouvelle. « Je vous prendrai au milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. » Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères et vous serez mon peuple. Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Et à la fin du chapitre, le Seigneur ajoute, je les multiplierai comme un troupeau humain, comme un troupeau de bêtes consacrées, comme le troupeau réuni à Jérusalem lors de ses assemblées. Voilà ce que Dieu veut faire en nous consacrant par son Esprit Saint. Toucher notre cœur. Que notre cœur de pierre devienne ce cœur de chair. Nous rassembler, unifier notre cœur pour être chez nous, au cœur de nous-mêmes, avec lui. Nous purifier, nous guérir, nous donner son Esprit Saint afin que nous parvenions à marcher sur ses chemins, à marcher à son rythme, à marcher selon son amour. Et aussi que nous sachions offrir notre vie. C'est le désir de notre cœur d'offrir notre vie au Seigneur. Et nous savons bien combien, eh bien, jour après jour, cela est parfois difficile, comment cela rencontre des obstacles. Et le Seigneur, à la fin, il dit ça. Vous serez comme un troupeau humain, un troupeau de bêtes consacrées, celui qui vient à Jérusalem pour les assembler, celui qu'on offre au Seigneur, celui qui est tout offert au Seigneur. Alors, dans un deuxième temps, je voudrais aussi dire quelques mots de Jésus. Jésus est le consacré par excellence, parce qu'il est le Christ, ça veut dire loin, celui sur qui repose l'onction de l'Esprit en plénitude, celui dont l'humanité sera pleinement saisie par l'Esprit Saint dans sa résurrection et qui pourra dès lors communiquer l'Esprit à toute chair. Comme j'ai dit précédemment, Jésus fait sienne la prophétie d'Isaïe que je vous ai lue. L'Esprit repose sur moi, il m'a consacré. Et beaucoup d'événements de sa vie, de sa conception, de sa présentation, qu'on a entendu à la messe aujourd'hui, jusqu'à sa résurrection, évoquent sa consécration, témoignent de ce qu'elle est. On aura l'occasion, comme je l'ai dit, dans cette retraite aussi, eh bien, de contempler la figure de Jésus, de contempler sa personne à travers des conseillers évangéliques, de nous mettre à son école, de nous mettre à sa suite. Et pour ce soir, pour entrer dans cette gentiment, dans cette retraite, je vous propose simplement quatre points qui ne sont pas forcément les plus marquants, mais qui sont ceux que je vous propose ce soir. Le premier, c'est quand Jésus a 12 ans et qu'il reste au temple de Jérusalem. Jésus se sépare de Marie et Joseph. Il se sépare du cortège familial qui a repris la route vers Nazareth pour être aux affaires de son père. Dans les exercices de saint Ignace, cette méditation, elle arrive vers le 10e, 12e jour. La retraite, elle en dure 30. Hein. Et c'est un moment décisif pour entrer dans les élections. C'est une retraite qui peut être une retraite d'élection, une retraite où on peut faire même l'élection, c'est-à-dire le choix de son état de vie. Et saint Ignace place dans cet épisode de la vie de Jésus une charnière. Il écrit, en parlant de Jésus, « Laissant son père adoptif et sa mère selon la nature pour se consacrer au pur service de son Père éternel. » Jésus était dans un premier état qui est de garder les commandements lorsqu'il était lui-même dans l'obéissance à ses parents. Et il entre dans un second état, celui de la perfection évangélique, le pur service du Père éternel. Et nous aussi, nous pouvons faire ce pas avec Jésus. Et alors les affaires de Dieu deviennent les nôtres. Et ça nous emmène très loin. Par exemple, ici dans cette chapelle, à l'orée de leur sainte, ça nous entraîne à l'amour des pécheurs, au partage de la mortelle tristesse du cœur de Jésus face aux péchés du monde. Le souci de Dieu devient notre souci. Le souci du péché du monde, le souci de la conversion du monde devient notre souci. Et alors nous prions, nous offrons des petits sacrifices, nous évangélisons. Donc cette première étape, être aux affaires de son Père, être aux affaires de notre Père, être chez soi, chez Dieu. Jésus n'est plus tant chez lui à Nazareth qu'il est chez lui dans le temple, dans la maison de son Père. Être chez nous, chez Dieu. Le deuxième point de la vie de Jésus, c'est évidemment son baptême. Dans son baptême, quelque chose change pour Jésus. Il va entrer dans son ministère public, il va annoncer le royaume, faire des miracles. L'Esprit Saint a reposé sur lui, sur sa nature humaine. Il reçoit du Père, de l'Esprit Saint, un nouvel élan, une nouvelle étape pour sa vie et pour la vie du monde, pour le salut du monde. Et encore ou surtout, il y a cette parole que Jésus entend. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Si le Père désire que chacun, à notre manière, chacun selon notre appel, nous nous consacrions à lui, c'est parce qu'il veut prononcer sur nous cette parole. En fait, parce qu'il la prononce et qu'il veut que nous l'entendions. Qu'elle devienne de plus en plus pour nous une pierre de fondation de notre vie. « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve toute ma joie. » Et je souligne aussi, parce que ça me semble important, mais d'une manière ou d'une autre, Jésus a eu besoin de cet événement. Il a eu besoin de cette parole et du don qui lui est associé pour entrer dans son ministère, pour entrer dans la grande fécondité missionnaire de sa vie. Du coup, il me semble que ça nous indique aussi pour nous l'importance des grandes étapes passées de notre vie. Les consécrations que nous avons pu prononcer, les consécrations dans lesquelles nous sommes entrés avec le Seigneur. Et peut-être que ces quelques jours peuvent être l'occasion d'en faire mémoire. Ces événements de notre vie, eh bien, c'est comme ce que la Bible appelle un mémorial. Le mémorial, à la base, au début, après il y a des manières différentes, mais au début c'est une grande pierre qu'on dresse, et puis on va mettre de l'huile dessus, parce que l'huile qui marque la pierre, on ne peut plus l'enlever. L'huile pénètre et on ne peut plus enlever. Elle est marquée d'un sceau. C'est comme pour dire que ces étapes, elles ont marqué notre vie d'une manière définitive. Et les remémorer, c'est pas juste s'en souvenir. C'est revenir à la... En fait, ces événements gardent une puissance, ils gardent une vertu, ils gardent une fécondité dans notre vie. Et y revenir, eh bien, c'est revenir à la source de cette puissance, revenir boire à la vertu, à la force de cet événement. Alors, ben voilà, peut-être dans ces quelques jours, on peut faire mémoire de notre baptême près du cœur de Jésus, d'où jaillissent les sacrements. Faire mémoire de notre baptême, faire mémoire de notre consécration au Sacré-Cœur, si on l'a déjà faite, au cœur immaculé de Marie. Faire mémoire de notre consécration religieuse. Une fois de plus, cette étape, elle était importante pour Jésus. Ces étapes sont importantes pour nous dans notre vie, et ces quelques jours peuvent être l'occasion d'y repuiser la force. Et puis, c'est important aussi de vivre le renouvellement de ces étapes, et la consécration de la fin de notre retraite en sera la possibilité. Un troisième point sur Jésus, le consacré, c'est Jésus, il est le sacrement du Père. Jésus dit « Qui m'a vu, a vu le Père ». Et de fait, Jean-Paul II écrit dans Vita Consecrata que les consacrés rendent visibles par la pratique des conseils évangéliques les traits caractéristiques de Jésus, de manière exemplaire et permanente. Rendre Jésus visible, c'est un des fruits de la consécration. Rendre Jésus visible comme Jésus rend le Père visible. Lundi, dans l'évangile de la messe, si vous y étiez, on a entendu l'épisode de la femme hémorroïs. Et il y a quelque chose qui m'a frappé cette année, c'est que, en fait, elle touche Jésus et elle est guérie. Mais d'une certaine manière, malgré Jésus, sans Jésus. Ce n'est pas la volonté de Jésus, Jésus n'en a même pas conscience. Elle a touché Jésus et elle est guérie. Alors de fait, Jésus la cherche, parce qu'il veut l'aider à cheminer jusqu'à la foi. Mais vous voyez, ça dit, enfin il me semble, ça dit quelque chose de Jésus, ça dit quelque chose de la consécration. C'est être tellement la demeure de Dieu, tellement le sacrement du Père pour Jésus, que malgré soi, sans soi d'une certaine manière, eh bien Dieu peut agir, Dieu fait son œuvre. Et peut-être que ça aussi c'est quelque chose que nous avons expérimenté dans notre vie à travers des figures de religieux, de consacrés, de baptisés que nous avons pu voir en fait, qui ne nous ont pas forcément parlé, pas forcément enseigné, qui n'ont pas forcément exercé leur volonté pour être en relation avec nous, et pourtant leur figure nous a touchés. Et pourtant quelque chose de la présence de Dieu est venu rejoindre notre cœur et le façonner. Je pense... C'est un exemple que j'aime bien donner, mais qui me frappe beaucoup, c'est des personnes qui ont pu se convertir rien qu'en croisant le regard de Jean-Paul II. Demander la consécration, désirer être consacré, c'est désirer cette présence qui finalement parle d'elle-même. Et c'est important pour Jésus aussi d'être considéré comme le sacrement du Père. Un peu avant, dans l'évangile de Marc, je crois que c'était la semaine dernière, mais c'était peut-être la semaine d'encore avant, mais Jésus guérit un lépreux. Et le lépreux vient et il dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me purifier. Et alors, bon, je ne vais pas reprendre toute la scène, mais on voit que Jésus est malmène un peu ce lépreux et puis en tout cas ne souligne pas sa foi, mais surtout quand il lui répond, il lui dit « je le veux ». Et c'est bien sa volonté qu'il exprime, cette volonté humaine aussi, dont on entendra ce soir l'écho à travers dans le récit de l'agonie. Mais il dit « je le veux, sois purifié ». Comme pour laisser la puissance du Père, l'œuvre du Père, agir à travers lui. Il est le sacrement du Père. Jésus dira d'ailleurs « si je me porte témoignage à moi-même, ça n'a pas de valeur ». Ce qui me rend témoignage, c'est les œuvres que je fais, les œuvres du Père. Ce sont elles qui témoignent pour moi. Dans ce même sens, et de manière un peu différente, mais Paul dira, et ce sera sa joie, c'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est la joie de cette consécration qui laisse en soi la place à l'autre qu'on aime. Seigneur, je t'aime et je veux que toi, tu agisses en moi. Seigneur, je t'aime et je veux que ce soit ton œuvre qui se réalise à travers moi. Alors évidemment, en dernier point, en abordant Jésus le consacré, je voudrais dire un mot de la mort et de la résurrection de Jésus. Je vais dire quelque chose rapidement, mais c'est évidemment le moment par excellence où l'œuvre du Père s'accomplit en Jésus, où Jésus offre tout ce qu'il est pour que l'œuvre de salut du Père s'accomplisse. Non pas ma volonté, mais la tienne, comme nous allons le méditer dans quelques instants. Et Jésus sera glorifié de la gloire du Père. C'est pleinement sa gloire et c'est pleinement la gloire d'un autre. Et une fois de plus, c'est vraiment la joie de Jésus. Que ce soit la gloire du Père qui se manifeste à travers lui, que ce soit l'œuvre du Père qui se réalise à travers lui. Et c'est peut-être une grâce qu'on peut demander aussi dans ces jours, que notre joie, ce soit que l'œuvre de Dieu s'accomplisse à travers nous. Pour dire encore un mot sur la passion de Jésus, il y a un seul point que je voudrais souligner. C'est cette phrase que Jésus dit en entrant dans sa passion. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Jésus nous montre qu'il existe un chemin pour aimer jusqu'au bout. Nous aspirons à ce chemin, parce que c'est le dynamisme même de l'amour de vouloir aimer jusqu'au bout, de vouloir aimer absolument. Et nous faisons aussi l'expérience que notre cœur est pauvre, que notre cœur est blessé, que c'est difficile pour nous d'aimer en acte et en vérité. Et Jésus nous dit qu'il existe ce chemin. Ce chemin, il va le faire lui-même, ce chemin, il va l'ouvrir pour nous. Il va être la tête qui passe en premier pour que nous puissions, nous aussi, mettre nos pas dans ce chemin de l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et Jésus va comme creuser ce sillon pour que nous puissions l'emprunter derrière lui. C'est lui qui le fait et nous le suivons. Mais ce chemin pour aimer jusqu'au bout existe et se livrer, se consacrer à l'amour de Dieu, eh bien c'est prendre ce chemin. C'est permettre à Dieu d'aimer jusqu'au bout à travers nous. Par nous-mêmes, nous ne le pouvons pas. Mais Jésus nous dit que ce chemin existe et que ce chemin, il nous le donne. Et la consécration est un moyen d'accueillir ce chemin et de nous mettre nos pas sur ce chemin. Alors pour terminer, eh bien je voudrais dire quelques mots de notre baptême. Comme je vous le disais, principalement des citations. Mais car par notre baptême, nous sommes déjà consacrés. Alors je vous commence par une citation du Concile Vatican II dans la constitution dogmatique Lumen Gentium qui dit ça. Les baptisés, en effet, par la régénération et l'onction du Saint-Esprit sont consacrés. Ils sont consacrés. Nous sommes consacrés. Ils sont consacrés pour être une demeure spirituelle et un sacerdoce saint. Une demeure spirituelle comme le temple, dont le temple est l'image, et un sacerdoce saint pour offrir. Pour offrir, et c'est le concile qui continue, pour offrir par toutes les activités du chrétien autant de sacrifices spirituels Donc c'est pas faire tant des choses en plus, vous voyez, mais la consécration, elle vient toucher toute notre vie, toutes nos activités normales, pour offrir par toutes les activités du chrétien autant de sacrifices spirituels et proclamer les merveilles de celui qui, des ténèbres, les a appelés à son admirable lumière. Je vous lis aussi une citation de Théodore de Maupassant. C'est un peu plus vieux, c'est plutôt autour du 4e siècle. Il ne sait pas, moi non plus. 4e siècle, je crois. Mais c'est moi qui devrais savoir. Il te faut donc, toi aussi, il parle aux baptisés et aux baptisés qui reçoivent l'onction en sortant de l'eau du baptême. Il te faut donc, toi aussi, recevoir alors la consignation sur le front, signe et indice que l'Esprit Saint aussi est venu sur toi et que tu en fus oint et que tu le reçus par la grâce et qu'il est à toi et demeure en toi. J'ai choisi cette citation à cause de ça. Il est à toi. L'Esprit Saint nous est donné comme notre héritage. La grande promesse que Dieu avait faite à Abraham, c'est une descendance et un héritage. Une terre qui devient petit à petit un héritage. Dans l'Épître aux Galates, on voit comment le Christ est la descendance, comment l'héritage, c'est l'Esprit Saint. Et nous sommes co-héritiers avec le Christ. L'Esprit Saint est à nous. Il nous est donné dans cette consécration qu'est notre baptême. Et enfin, une citation de Saint Cyrille de Jérusalem. « Baptisé dans le Christ et revêtu du Christ, vous êtes devenu conforme au Fils de Dieu. Participant donc au Christ, on a raison de vous appeler des Christs. Et c'est de vous que Dieu a dit « Ne touchez pas à qui m'est consacré ». C'est une parole du psaume que Saint Cyrille de Jérusalem met dans la voix de Dieu qui parle à son baptisé, à ses baptisés. Dieu défend ce qui lui appartient. Parfois, nous avons l'impression, vous voyez, que dans la consécration, c'est nous qui nous préparons beaucoup, qui allons vers Dieu, qui offrons, qui prenons une décision, qui nous engageons beaucoup. Et en même temps, nous entendons de la voix du Seigneur ce soir que c'est d'abord un don de Dieu. C'est d'abord lui qui nous choisit. Je t'ai choisi pour que tu sois un domaine particulier au milieu des nations. Tu es un peuple consacré parce que je t'ai choisi. Et Dieu défend ce qui lui appartient. Dieu protège ce que lui sème dans notre cœur. Dieu protège les grâces qu'il met dans notre cœur. Dieu protège nos consécrations. Alors, en conclusion, la suite de la retraite, elle va continuer à nourrir nos cœurs pour que grandisse notre désir d'accueillir mieux le don de Dieu, de lui laisser plus de place, de mieux communier, nous, à son amour. En méditant, comme je vous le disais, autour des conseils évangéliques, avec le Christ pauvre, obéissant et chaste. Dans quelques instants, nous entrerons dans l'heure sainte pour accompagner le Christ qui consacre entièrement sa volonté, toute sa vie au Père et à la volonté du Père.